Ceci dit, la situation reste globalement extrêmement grave et nous sommes dans une situation de crise majeure. Et cette situation de crise majeure va durer jusqu'à ce que deux éléments soient réunis. L'un est que l'exploitant japonais dispose d'un refroidissement permanent en eau douce. Le refroidissement permanent, ça veut dire autre chose qu'une alimentation venant avec des camions pompes, des arrosages. Et deuxièmement, le retour d'une source froide pour que l'ensemble du système puisse être froid. Donc, tant que ces deux conditions ne sont pas réunies, refroidissement permanent avec l'eau douce, retour d'une source froide, la situation restera extrêmement grave. J'ajoute que, clairement, un certain nombre de cuves de réacteurs, un certain nombre d'enceintes de réacteurs ont été endommagées, sans qu'on sache exactement ce qu'il en est. L'information varie suivant les moments, mais ça veut dire que, de toute façon, il y a des fuites qui s'ajoutent aux relâchements volontaires de radioactivité qui ont été opérés dans les premiers jours de la crise. Ça veut donc dire que il y a de la radioactivité dans l'air et dans l'eau, il n'y a pas à s'en étonner. La crise est d'une gravité extrême. Ce n'est pas par hasard qu'elle a été classée au niveau 6 dans l'échelle INES. Il y a, à l'évidence, d'y retomber dans l'air et dans l'eau. Alors, quelle peut être la durée de cette crise? C'est très sûrement une crise qui va durer des semaines. Parce que la situation est compliquée et que les mesures à prendre sont elles-mêmes complexes. Alors, j'en veux pour preuve un récent communiqué de TEPCO, l'exploitant japonais, indiquant que, certes, désormais, les centrales, les réacteurs étaient alimentés en courant, mais que le branchement sur ce courant d'un certain nombre d'appareillages allait prendre au moins un mois. Vous voyez qu'on est vraiment dans les dernières semaines. Et d'autre part, la crise va durer également longtemps parce que les conditions d'intervention des travailleurs sur le site sont extrêmement compliquées. La radioactivité est forte, donc ils sont obligés de travailler dans des conditions protégées. Et par ailleurs, vous avez vu le phénomène des flaques d'eau dans le bâtiment de l'auxiliaire, avec de l'eau hautement contaminée, qui va encore compliquer les conditions d'intervention à travailler. Donc la crise va durer encore des semaines. Alors ça, c'est pour l'installation. J'en viens aux conséquences radiologiques, en distinguant trois plans pour les conséquences radiologiques. Le premier plan, c'est sur le site. Bon, à l'évidence, sur le site. Je l'ai dit à l'instant, radioactivité élevée, conditions de travail très difficiles pour les travailleurs, qui doivent, je dirais, à chacune de leurs interventions, ne pouvoir disposer que d'un nombre limité de minutes de travail. Ça, c'est pour le site. Alentour, à l'évidence, une contamination qui va s'étendre sur des zones considérables. Ce n'est pas du tout étonnant qu'on trouve ici ou là des contaminations bien au-delà d'un rayon de 100 km. Nous n'avons pas de chiffres globaux sur cette contamination, mais il est clair que la gestion des territoires contaminés va prendre des années, sinon des décennies. Et puis, troisième élément, en termes de conséquences radiologiques, sur d'autres pays, dont la France, dans le cas de la France, les retombées sont extrêmement faibles, sans aucune conséquence environnementale ni sanitaire. Voilà globalement la situation. Nous avons fait toutes les offres d'aide qu'il était possible de faire. Nous sommes en particulier porteurs actuellement d'une offre de gestion d'une partie du sujet qui se pose aux autorités japonaises, qui va être la gestion du post-accidentel, sur lequel nous pensons depuis quelques années avoir accumulé de la réflexion, pas de la pratique, mais de la réflexion. Nous avons fait cette offre. Mais encore une fois, vous voyez, nous ne pouvons pas envoyer notre aide sous forme d'un commando armé.